L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le quatrième passage de notre Gazette Africa du samedi 10 septembre à Montpellier, au titre de l'arbre à palabre à l'écriture engagée. Comme vous le comprenez, nous avons parlé de littérature. Donc sur cet épisode-là, nous avons reçu Anthony Muyungi, qui est né au Congo, qui est journaliste reporter et qui publiait son premier roman au titre de Rescapé. Et en fait, ce roman, sous forme romancée, c'est le récit d'une vie terrible qu'il a connue, où il a échappé à la mort plusieurs fois lors d'événements d'une guerre qui a eu lieu au Congo il y a quelques années. Voilà. Donc Anthony Muyungi sera reçu par Nathalie Boly, donc qui est co-animatrice et qui est responsable d'une émission littéraire, voilà, et qui est une passionnée de littérature. Donc je vous laisse en compagnie de ces deux personnes. Bonne écoute.
Donc je suis ravie donc pour présenter cette deuxième interview après avoir reçu notre ami Marcel, qu'on aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Ah, voilà. Et ben, j'espère vous faire aussi aimer Anthony Muyungi, parce que moi personnellement j'ai été très secouée, vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, par la lecture de ce livre que j'ai reçu en version numérique. Hein. Mais j'arrive pas quand même à lire sur l'ordinateur. Ouais, donc,
je préfère j'aime avoir le papier, du papier.
Moi. Je suis une femme du papier. Je suis vieux jeu. Non, mais elle se donne des allures comme ça, mais bon. Donc, je vais avoir le plaisir de vous présenter Anthony Muyungi. Donc, Anthony Muyungi, vous êtes un journaliste congolais.
Oui.
On descend un peu plus en Afrique, après de passer par le Sénégal.
On arrive sur le golfe de Guinée, en Prolès, c'est l'Afrique centrale.
J'avais demandé à Marie-Claude et à Guylaine d'essayer de trouver une carte d'Afrique, mais je crois qu'ici, vous êtes tous très connaisseurs de l'Afrique.
Oui, voilà, quelque chose comme ça. Et le Congo,
Congo, et surtout que c'est un assez petit pays.
On a l'habitude de dire que l'Afrique, on imagine que l'Afrique est une arme, et le Congo, c'est juste la gâchette.
Voilà. À côté du Congo ex-belge Kinshasa, qui lui est immense alors. Hein.
Vraiment.
Ouais, vraiment, très grand. Et donc, vous êtes passionné de livres, d'écriture. Vous avez déjà partagé l'écriture d'un ouvrage collectif qui s'appelle Franklin Insoumis.
Oui.
Voilà. Et donc, Rescapé est votre premier livre personnel.
Personnel.
Voilà, tout seul, comme un grand. C'est pas facile de trouver une biographie large, donc vous allez être un petit peu obligé de parler de vous. Hein, voilà. C'est pas moi qui vais vous présenter.
On a le temps jusqu'à demain, parce que je peux partir du premier jour, du premier anniversaire, 10e anniversaire, 20e. Bon, comme vous avez su le dire, je suis journaliste congolais et je vis en France depuis quelques années. Ça va faire 10 ans en octobre. Et alors, j'ai aussi l'habitude de dire que je suis né un vendredi après-midi, 14 jours avant le 15e anniversaire de ma mère. Donc, ça montre déjà qu'il y a une certaine relation très fusionnelle avec la maman, et elle est très présente dans l'œuvre aussi. Et j'ai fait des études de communication, et j'ai su sortir de l'université Marengo, la seule université congolaise qui fonctionne, avec une licence de journaliste. Donc j'ai travaillé pendant des années en tant que journaliste à la fois à la radio et à la télévision, et aussi quand le web est rentré dans les habitudes sur les sites internet. Et là, je suis avec une web TV qui s'appelle Ziana TV, qui est basée dans le 93 en Île-de-France. Et la mission de cette chaîne, c'est de parler de tout ce qui concerne la communauté africaine. Donc, notre slogan, c'est la chaîne au cœur de diaspora. Donc, quand il y a un événement qui concerne l'Afrique dans son ensemble, sur Paris, l'île de France, ou bien même à l'extérieur, même à Montpellier, si on peut arriver, puisqu'on a déjà, on s'est déjà retrouvé plusieurs fois à Nantes, à Bordeaux et à Lyon. Voilà. c'est à peu près ça. Et pour en ce qui concerne
Et vous, pourquoi vous parlez de vous aussi, puisqu'on peut encore parler un petit peu de vous. Vous vous parlez, alors le seul réseau prolixe sur vous, c'est LinkedIn. Et vous parlez de votre passion, que vous êtes un homme passionné. Si je peux vous citer, hein, c'est la passion qui me motive. La passion que j'ai non seulement pour ce métier, mais aussi et surtout ma soif d'apprendre encore et encore. Après plus d'une décennie de journalisme, je ne dors pas sur mes acquis. Chaque jour qui passe, j'ai envie d'en apprendre davantage. C'est tout ça qui vous nourrit aussi cette...
Oui, exactement. J'ai compris avec le temps, avec la vie, qu'on ne devait pas dormir sur ses lauriers, qu'on ne se suffisait pas, que la vie, c'était comme un immense jardin. Il fallait l'entretenir chaque fois qu'on avançait dans le temps. Il y a des nouveaux objectifs qui arrivent, il y a des nouvelles innovations qui arrivent sur la Terre. Il faut s'adapter. Il y a 20, 30 ans, personne ici n'aurait imaginé qu'on aurait Internet, qu'on aurait le téléphone portable, qu'on aurait notre calendrier, notre calculette, notre agenda dans un petit bout de...
Toute notre vie, non.
Voilà.
Ce qui fait quand on perd, on est fou.
Et même du temps où on était à la fac, on étudiait un penseur canadien qui s'appelait McLuhan, qui nous parlait du village global. Et il nous disait que dans sa théorie qui remontait aux années 50-60, et nous l'étudions dans les années 90, il nous parlait déjà du village global en ce sens qu'il avait l'habitude de dire que dans quelques années, un événement qui va se dérouler à Washington, dans les trois quarts d'heure, le monde entier sera au courant. La preuve, la reine d'Angleterre est décédée, le monde entier est au courant.
Dans la seconde.
Et je pense qu'il faut toujours se remettre en question, apprendre et apprendre, tant qu'on a la capacité de le faire, tant qu'on a la possibilité aussi de le faire, parce que le savoir aussi n'est pas à la portée de tous dans certaines régions.
Et ce métier de journalisme, j'insiste un peu dessus parce que le livre a une écriture aussi journalistique. C'est pour ça que quand vous dites que depuis tout petit, vous vouliez être journaliste, vous vouliez témoigner de tout ce que vous voyez.
Je vais raconter, puisqu'il faut parler de moi.
Oui.
tout petit, je devais avoir moins de 10 ans, je ne sais pas, 6 ou 7 ans. Je suis littéralement tombé sur un poste téléviseur en noir et blanc. En ce temps-là, les postes télé-couleur, c'était pour ceux qui avaient beaucoup d'argent. Et on n'avait pas, j'ai vécu chez mes grands-parents, on n'avait pas l'électricité, donc j'allais regarder la télé en face chez le voisin. Et le voisin aussi n'avait pas d'électricité, donc sa télé marchait à la batterie. Et quand j'ai vu la télé pour la première fois, j'ai plus voulu faire autre chose que regarder ce petit poste avec ses images en noir et blanc, les séries. Et je pouvais regarder la télé de 18h, puisque la télé commençait en ce temps-là à 18h et s'arrêtait à 22h. Donc j'étais scotché. Et je suivais même les informations sans comprendre ce qui se faisait parce que je voulais. Et le grand émerveillement est encore arrivé quand je suis allé pour la première fois dans une salle de cinéma. Et c'était en couleur, et c'était un western avec le bruit des coups de feu, des chevaux.
Et tout ça, ça vous a fasciné?
Tout ça m'a fasciné, et j'ai commencé à regarder, à force de regarder la télé, je me suis dit, je dois faire comme ces hommes, comme ces femmes que je voyais à la télé, je dois être journaliste. Et tout petit, je me voyais exercer trois métiers. Journaliste, avocat et peut-être médecin. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la médecine, c'était pas trop avec moi, puisqu'il fallait avoir une certaine capacité dans les matières scientifiques. Et moi, j'étais déjà limité aux matières littéraires, comme si je savais que ma voix, c'était les lettres, les mots et autres. Et c'est depuis tout petit que j'ai décidé d'être journaliste et je me suis forgé. Je me suis cultivé sans savoir que ça allait être important plus tard. Je me suis cultivé comme tout individu. J'avais soif de livres. Et chez nous, il y avait toujours un livre. Et mon père était professeur de sciences physiques et mathématiques au collège. Et ce qui est bizarre, je n'ai jamais été bon dans ces matières. Donc, on ne sait pas.
Il en était triste ou pas?
Si, il en était triste parce que quand j'obtiens le BMG, l'équivalent donc du brevet, en ce temps-là, c'était le brevet d'études moyennes générales, quand le BMG qui est redevenu BPC, il a tenu à ce que j'aille dans une série scientifique pour être comme lui. Et je suis allé, mais je me suis cassé la figure comme pas possible.
Ça vous parle, hein?
C'est la seule année scolaire où, bien avant la fin du deuxième trimestre, je savais que j'allais pas passer en classe supérieure, puisque contrairement en France, au Congo, le redoublement existe. Quand tu n'as pas une moyenne, tu ne passes pas en classe supérieure.
Il n'existe plus, mais il a existé.
Voilà, il n'existe plus, il a existé un moment en France. Voilà.
Et c'est cette passion donc, pour le journaliste qui fait que votre héros, donc le héros du premier livre que vous écrivez, Franck, c'est aussi ce qui va devenir à la fin.
Le livre, en tant que tel, c'est une histoire vraie, une histoire vécue.
On peut faire le pitch, peut-être Voilà, je vais vous faire le pitch du livre, quand même. Donc, ça se passe en 1998. Étudiant à l'université, alors, si je le dis mal, vous me corrigez, hein, Marianne Gouabi.
Marianne Gouabi.
Voilà, à Brazzaville. Franck, donc, originaire de Pointe-Noire, est confronté à une situation de conflit armé civil qui le conduit, avec son ami Roland, à partir dans le Poule, ensuite en République démocratique du Congo, donc Congo-Kinshasa, puis à Pointe-Noire via Brazzaville. 7 mois d'exil, d'exode, de souffrance, avant de se retrouver chez lui, dans sa famille qui vit à Pointe-Noire. Donc, le titre Rescapé, à travers le pitch que je viens de lire, on comprend ?
Oui, on comprend exactement. Et la photo aussi en dit long, puisque à ce moment-là, je dis que l'histoire est vraie, donc je serais tenté de me confondre avec Franck. Je dirais donc que cette période a été une période très cruciale, très tragique, outre les combats. Il y a eu aussi la famine qui est rentrée dans la danse, les maladies, puisqu'on avait quitté toute zone urbaine. Merci. Pour se retrouver dans les zones rurales. Et dans les zones rurales, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas... Et puis dans cette situation de guerre, donc, le chemin de fer symbolise tout ce que les protagonistes ont traversé de Brazzaville jusqu'à...
Alors, enfin, c'est assez incroyable parce que je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont dû voir Shoah, mais c'est vraiment la même photo d'un chemin de fer qui rentre dans le camp.
Oui, pour le cas de la Shoah, c'est un chemin de fer de non-retour.
Voilà, c'est à peu près la même photo. Dans le premier chapitre, vous faites tout de suite le portrait de Franck, et ce qui est très fort, c'est que ça commence comme une journée normale.
Exactement.
Voilà. Hein, on se lève, on voit des copains, on voit toutes les petites difficultés qu'il a. Il n'est pas très friqué. Hein, donc voilà, il va à pied à la fac.
Quand on est étudiant au Congo, c'est difficile d'être friqué parce que.
Mais il y a des copains qui sont quand un peu plus de sous que lui quand même.
Oui, il y en a. et on avait l'habitude quand on était à la fac, il n'y avait pas de téléphone, donc chaque fois qu'on se rencontrait, de se raconter des histoires. Qui a reçu un peu d'argent, qui a reçu un peu de bouffe, qui a...
Voilà, c'est ça. Enfin, beaucoup dans le partage aussi.
Quand on a reçu un peu de bouffe, en ce moment-là, on dépanne les amis parce qu'on sait que quand on sera dans la disette, il y aura un retour d'ascenseur. Donc, et puis, il fallait attendre la bourse, et la bourse de l'État venait quand les décideurs voulaient nous la donner. Vous pouvez passer 3 mois, 4 mois, et si les parents n'avaient pas des revenus assez solides pour vous venir en aide, ben, nombreux ont arrêté des études parce qu'ils n'avaient pas la capacité de se payer un loyer, de se payer à manger, de payer le transport. Le transport, au moins, on avait trouvé un palliatif, c'est-à-dire marcher.
Beaucoup. Ouais. Et cette sidération donc de basculer, voilà, de passer dans... Je pense que les Ukrainiens ont dû vivre ça aussi, quoi. On se lève le matin et puis tout d'un coup, à 9h, c'est plus pareil. C'est vrai, j'aurais voulu qu'on parle aussi un peu de la situation. J'ai eu la chance un jour d'entendre une formidable émission sur France Inter qui a expliqué ce que c'était que la famille des Denis Sassou Nguesso et tout ce qui se passait, toutes les guerres. J'avais appelé Marcel à cette époque-là, d'ailleurs, en disant « Ça y est, je viens de tout comprendre sur ton pays. » J'ai pas tout compris, mais c'est très important. Donc, le fait que ça se passe en 98, donc il y a déjà eu des événements forts en 94, en 97, qui sont encore très neufs. Mais donc, ce jeune homme se réveille, il fait ses études, et ça va rebasculer. Vous pouvez un peu dire quels sont les deux forces politiques qui s'affrontent à ce moment-là ?
À ce moment-là, donc, C'est un peu le thème du troisième chapitre où j'ai tenu à retracer un peu l'historique pour que les lecteurs non congolais comprennent la situation. Donc on est en 98. On était en 97 dans un conflit armé déjà entre le président sortant Pascal Lissouba qui était au pouvoir depuis 5 ans et l'ancien président Denis Sassou Nguesso. Donc les milices de ces deux hommes se battaient. Et à la fin, avec l'intervention donc, de l'armée angolaise, Sassou a gagné. Et Lissouba a pris la fuite. Donc Sassou a réorganisé le pays. Et en 98, donc on se retrouve à nouveau. Déjà en 97, j'étais à Brazzaville. Et quand le conflit a éclaté, on a tous fui, on a tous quitté Brazzaville. Je me suis retrouvé chez moi à Pointe-Noire, puisque à Brazzaville, je vivais chez ma grand-mère juste parce que j'étais venu continuer mes études. Et quand on arrive à Pointe-Noire, on passe, le conflit se déroule, et en octobre, le 15 octobre 1997, c'est la victoire officielle. Le président sortant quitte le palais, donc l'ancien président redevient président. Et quelques mois après, dans le but de réorganiser la société, le président, je veux dire, affrète un train spécial réservé, un train gratuit à tous les étudiants. Donc tous les étudiants qui sont sur la ligne des chemins de fer, vous êtes appelés à prendre ce train si vous voulez revenir parce que l'université va ouvrir. Et ça ne s'arrête pas là. On dit, dès que vous descendez du train, dirigez-vous vers l'inspection générale de l'État. Vous avez une bourse de 3 mois. Et l'information est passée à la télé, passée à la radio. Tout le monde s'est regardé. Dit, ça, c'est une occasion à ne pas rater. On ne sait pas ce qu'on va trouver du côté de Brazzaville, mais on va y aller. Et on arrive à Brazzaville, il y a des stigmates de la guerre. Voilà. C'est sombre, c'est... Brazza respire la vie, il y a du bruit, il y a du mouvement, il y a de la musique, il y a un certain rythme quand on vit à Brazzaville. Mais quand on est reparti, il n'y avait rien, c'est comme un champ de ruines. Donc on marchait, on regardait les bâtiments qui faisaient la fierté un an plus tôt de la ville, qui étaient délabrés, il y avait les impacts des balles, les impacts des obus. Donc la ville n'était pas encore tout à fait nettoyée, reconstruite, on a vécu tout ça. Là. Et quand... on finit, on reprend les choses normalement, l'école, on reprend les études. Et en décembre, déjà au milieu de l'année 98, quand on arrive autour de mars, avril, mai, il y a des soubresauts du côté du Poule, qui est la région la plus proche de Brazzaville, du côté sud. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe encore? Mais comme c'est loin de Brazzaville, ça ne nous inquiète pas plus que ça. On continue à mener notre vie. Et au fur et à mesure, on a des informations qui viennent. Et les gens qui habitent les campagnes concernées reviennent sur Brazzaville, nous racontent. Mais on est dans un état où on a envie de croire qu'après 97, on se dit, donnons-nous quand même la chance de passer une année ou deux de paix. On va pas voir. Mais seulement en décembre, et c'est là que ces rebelles arrivent jusqu'à Brazzaville. Ils font une incursion dans le quartier sud. Et comme les rebelles venaient du Poule, qui est une région du sud, et la plupart des ressortissants de cette région habitent la partie sud de Brazzaville, donc ça, ils ont été accueillis en héros. Et c'est là que tout
recommence.
Donc, Franck, qui habitait dans la même parcelle que Roland, en fait, Franck était... peut habiter chez les Roland. Donc la famille de Roland avait une parcelle avec plusieurs portes et Franck habitait là. Et il se retrouve, ne sachant pas là où aller, la famille de Roland a tout naturellement proposé
de partir. Donc on va revenir justement sur tout ce voyage qui va avancer dans le pays en partant vers le sud. Mais je voudrais que Marcel nous lise page 9, une partie qui explique justement ce moment un peu de sidération quand on s'aperçoit qu'il faut partir et que la bascule se fait.
Nous ne craignons rien. Pourtant, tous les signes avant-coureurs d'une explosion étaient là. Nous n'accordions pas beaucoup d'importance à tout ce qui nous parvenait du Poule. Depuis des mois, la situation dans ce département proche de la capitale empirait chaque jour. Je voyais des milliers de gens quitter les villages pour se réfugier en ville. Ils fuyaient car ils étaient pris entre les feux des FAC, forces armées congolaises, et des rebelles ninja Unsi Lulu d'un certain pasteur Ntumi. Je ne savais pas très bien comment les désigner. Ce pasteur avait commencé à faire parler de lui lorsqu'il s'était donné comme mission de guérir les fous qui erraient dans la ville. Depuis, il s'était transformé en chef de guerre et en rebelle. Certaines rumeurs affirmaient que ces combattants seraient ces fous guéris. Personne n'en était vraiment sûr à 100%. Les villageois nous parlaient des exactions commises par les militaires, des hommes exécutés sommairement, des femmes violées, des maisons incendiées et des biens pillés. Les convois militaires, véhicules et trains étaient remplis au retour du poule des butins de guerre. Ils nous parlaient aussi des villages désertés par leurs habitants qui avaient trouvé refuge dans les forêts sans nourriture, sans soins, dans le dénuement total. Nous ne les prenions pas trop sérieux, nous trouvions qu'ils exagéraient. Une chose était sûre, nous ne voulions pas trop y croire. Nous appliquions la politique de l'autruche. Nous en parlions pourtant, nous en avions peur, mais nous restions confiants en l'avenir. Nous remettions tout entre les mains de Dieu. Comment pourrait-il permettre cela? Nous savions qu'un jour ou l'autre, tout allait exploser. Mais nous ne savions pas quand. Une année après la guerre civile, pour la prise et la conservation du pouvoir, le Congo était à nouveau au bord d'un nouveau conflit armé.
Là, vraiment, à travers cet extrait, on rejoint vraiment tout ce que vous avez dit, hein, sur cette espèce de sidération. Et là, vous parlez de la religion. Ça, je voulais aussi qu'on en parle, parce que déjà, dans le chapitre 2, vous en parlez beaucoup, et puis on parle de ce pasteur. Et Radio FM+, est une voilà, religion protestante, donc c'était important de vous entendre là-dessus.
C'est une radio protestante.
Oui. Donc, pour information, 50% de la population est chrétienne, mm-hmm, au Congo, et 90% de catholiques et 10% de protestants.
50%.
Ouais, il dit 50%.
C'est plus que ça.
C'est plus. Après.
Et dans le chiffre, il y a des catholiques et des protestants.
Voilà. Votre héros, lui, n'est pas religieux, et donc les autres 50% sont animistes.
Mon héros n'est pas religieux. Il ne croit pas en Dieu, même si il est issu d'une famille chrétienne. Sa grand-mère, sa mère croient en Dieu et sont curieusement membres de l'église évangélique du Congo, donc ce qu'on appelle les protestants au Congo.
Et il y a 12% de musulmans.
Ouais. Voilà. Par 12%, rapport aux 97% ça augmente. Il y a 20-30 ans, c'était plus faible que ça, mais depuis un certain nombre d'années, avec la présence massive des commerçants ouest-africains de confession musulmane, et donc il y a une partie de la population congolaise qui sont issus des immigrés ouest-africains. Donc, il y a une couche.
On le voit d'ailleurs. C'est intéressant d'aller voir une carte de l'Afrique où on voit les religions musulmanes descendre de plus en plus.
L'Afrique centrale. On a de plus en plus de musulmans au Gabon, au Congo et puis en République démocratique du Congo.
Alors, ce pasteur Ntumi, de son nom de naissance, voilà, excusez-moi.
Ntumi.
Voilà. De son vrai nom de naissance, Frédéric Binsamou. Il est pasteur, chef de milice, homme politique congolais. Il est né en 64. Il est toujours vivant.
Oui, il est toujours vivant.
Il a été dans plein de. Il a des cheminements sinueux.
Oui.
Il reprend les. Enfin, on en a un petit peu parlé en off avec Marcel. Il m'a donné des cartes parce que, bon, je ne suis pas. Hein. Il a repris un peu justement les combattants de.
Oui, les combattants qui étaient avant sous la bannière de Bernard Colella. Donc, on les appelait les ninjas, mais pas tous les ninjas qui sont devenus. Qui sont passés sous le contrôle de Frédéric Binsangou, donc pasteur Ntumi. Et pour les différencier, les autres ninjas qui ne l'ont pas rejoint demandaient à ceux qui l'avaient rejoint de changer de nom. ne vous appelez pas ninja parce que ça faisait amalgame et on les mélangeait tous, même ceux qui n'étaient pas partis du côté du pasteur Ntumi. Et voilà pourquoi l'expression Nsilulu donc, apparaît, qui est comme les messagers, les héritiers, donc il y a autour du mot.
Oui, c'est ce que ça veut dire, oui.
Ntumi. Donc lui, on le remarque parce qu'à Brazzaville, ou à Pointe-Noire, en tout cas dans tout le Congo, faute de structure d'accueil pour les personnes souffrant des troubles mentaux, ils errent dans la ville. Et souvent, ils sont violentés et autres. Donc, ils mangent même le sol, ils se baladent pour certains nus parfois. Et lui, il apparaît comme ça un bonjour, il commence à les récupérer, les amener chez lui pour les guérir, parce qu'il avait un don, paraît-il, qu'il avait reçu du Saint-Esprit. Donc, il avait des connaissances traditionnelles aussi dans tout ça. Et nous, en tant que citoyens, c'est bien s'il y a quelqu'un qui veut aider les gens qui sont en souffrance. On ne peut pas l'empêcher. Et c'est là qu'on a commencé à le remarquer dans les rues de Brazzaville, dans les rues de Brazzaville. Après un moment, il a disparu de la circulation et le résultat, il est réapparu en tant que chef militaire. Et après la guerre, il est devenu commissaire quelque chose.
Voilà. Il a été sensible aux honneurs. Quand même.
Gravité dans la sphère politique jusqu'à occuper des grands postes. Voilà. Et comme d'habitude, c'est encore mal fini puisqu'il a été à nouveau chassé, cette fois-ci pour tentative de rébellion. Donc, comme quoi, avec un peu d'intelligence, avec un peu de... Comment dire ça? On peut s'en sortir au Congo en trouvant juste un bon filon. Parce que ça a été un bon filon pour beaucoup de gens.
Mais d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont survivants. Enfin, moi, quand j'ai été voir les noms que vous citiez dedans, ils sont toujours au
pouvoir. Oui, nombreux sont vivants, nombreux occupent pour certains des postes de responsabilité. Il y a d'autres qui ont été à l'Assemblée nationale, alors que tout le monde sait que ce sont des criminels de guerre. Et on les a adoubé, anobli, on peut dire ça, si le colleur a donné tout ce qu'il voulait sous prétexte qu'ils avaient ce passé-là.
Il fallait peut-être se les approprier aussi.
Mais exactement. Façon de les faire. Au lieu de faire un véritable travail de réconciliation, parce que quand on accorde des honneurs à de présumés assassins, de l'autre côté, on oublie qu'il y a des parents des victimes qui souffrent en les regardant bien reçus, tapis rouge, écharpe tricolore à l'Assemblée nationale. Ils se disent que, tiens, ce gars est parmi ceux qui ont tué soit mon fils, soit ma fille, soit qui a incendié chez nous, qui ont violé, voilà.
Alors, ce qui est passionnant dans le livre, c'est dans les trois premiers chapitres, vous posez vraiment les cadres. C'est-à-dire que même si vous ne connaissez pas du tout, moi je ne la connaissais pas du tout, l'histoire du Congo, à part cette émission sur France Inter, et c'était plus l'histoire de la fortune de la famille, voilà, en France, comment les sœurs, il avait mis ses sœurs partout, avenue Foch et tout, enfin bon, voilà. Et sur l'appauvrissement, parce que bon, l'argent que le chef d'État s'approprie, c'est aussi de l'argent qui ne va plus dans les habitants, enfin pour le peuple du Congo. Et après, donc, une fois que vous avez posé ce cadre donc, de raconter, dans le troisième chapitre, vous parlez beaucoup justement de ce qu'on vient de parler sur l'histoire du Congo, ce qui s'est passé en 58, tout ce dont on a parlé au début de l'entretien.
Et, en 59, plus précisément.
Oui, voilà, oui, 59. Ouais.
Et mon père m'a dit qu'en 59, tu étais un garçon de 7 ans. Il s'était caché sous le lit parce que des gens hostiles étaient dans le quartier, dans le parage, donc il a passé plusieurs heures tremblotant sous le lit. Donc, imagine un seul instant si ses agresseurs l'avaient attrapé. Je ne serais pas ici en train de vous parler.
Tout ça, vous nous rappelez tout ça, vous nous apprenez tout ça. Le début du livre est vraiment un apprentissage. Et après, on part dans cet exode et dans cette histoire où donc il sort de Brazzaville, il descend vers le sud et il va s'arrêter donc dans la famille de Roland, pendant un certain temps, où il est accueilli formidablement.
Oui, il connaissait déjà la plupart des membres de la famille pour avoir vécu avec eux plusieurs mois, et notamment la maman qui dirige la famille, puisque le père de famille était décédé. Ce qui est extraordinaire à ce niveau, c'est que je viens d'une ethnie qui a été en conflit avec l'ethnie de cette famille en 93-94. Et les gens de mon ethnie ont assassiné le chef de famille. Et ils me reçoivent dans ces conditions-là. Ils me donnent un toit, ils me donnent à manger et ils me protègent.
Donc, excusez-moi, Anthony, mais vous dites « ils me donnent ». Moi, c'est la question que je n'ai pas osé vous poser. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans Franck ? Parce qu'il donne ça à Franck aussi.
Voilà. Mais comme je l'ai dit, j'aurais tendance à parce que l'histoire...
C'est difficile. Voilà.
Difficile voilà, de c'est me dissocier. Parce que l'histoire, c'est moi qui l'ai vécue et je le fais partager, je le fais porter par quelqu'un d'autre dans le
livre.
C'est
peut-être plus facile aussi, parce voilà. qu'on va passer, là, justement, pendant l'Exode, il va vivre des choses terribles. Bon, je pense à ces trois militaires qui sont enterrés à moitié morts vivants. Enfin, c'est que des exactions, c'est des viols, c'est vraiment le pire sans, de la pire de la guerre.
Ce sont ces exactions-là qui sont, pour certains, à l'origine de la rébellion, de la révolte des gens. Parce que après 97, certains ninjas se sont repartis en campagne, sont devenus agriculteurs, ont pour certains enterré les armes, d'autres ont mis dans un coin en se disant peut-être qu'un jour on en aurait encore besoin. C'est comme s'ils savaient. Et quand il y a eu, comme dans tout conflit civil, le vainqueur a toujours tendance à vouloir humilier celui qui a déjà perdu. Donc il y a des exactions, on arrive, on se comporte à...
Des deux côtés, parce que quand les ninjas demandent aux gens de marcher pieds nus c'est la dans même la terre brûlante, voilà. C'était pas
détendre non plus. Donc les ninjas, eux, s'en prenaient également à des gens qui les soutenaient, donc de part et d'autre. Et quand ils ont commencé à faire ces exactions, pour montrer qu'on est tout puissant, que vous pouvez rien faire, qu'on vous a vaincu, que c'est nous les maîtres maintenant, et les jeunes constatant que... Ça s'empirait, qu'on assassinait les gens par plaisir. Il suffisait que sa tête ne revienne pas à un militaire, bah, il t'exécutait. Il suffisait qu'il comprenne que la fille qui l'intéressait regardait plus l'autre que lui-même. Il fallait éliminer le rival. Moindre discussion dans un bar, ça finissait par un bain de sang. Donc les jeunes se sont révoltés, puisque malgré leurs plaintes, que ce soit au niveau des autorités politiques et administratives, personne n'y réagissait. Et ça a entraîné ce conflit-là.